Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous recevons Louis Chauvel. Louis Chauvel est né en 1967, il est sociologue, il est docteur en sociologie, il est maître de conférences à l'IEP de Paris et chercheur associé à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE-FNSP. Ses recherches portent sur le changement macro-social et socio-économique de long terme, et notamment sur la répartition du revenu, du patrimoine, de l'accès au travail et du suicide. Parmi ses publications, il a publié de nombreux articles dans des revues, mais également, et là je citerai son ouvrage qui est sorti aux Presses universitaires de France en 1998, et qui, avec le titre « Le destin des générations, structure sociale et cohorte en France au XIXe siècle ». Voilà, Louis Chauvel, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Génération dorée, génération sacrifiée, génération de 1914, de 1918, génération morale, génération courage, génération inoxydable, Mitterrand, Moulinex, cocon, kangourou. Voilà autant de syntagmes un petit peu étranges que l'on peut glaner dans la presse au fil des jours, qui tendent à simplifier l'idée de génération pour réduire à un seul mot, à un seul adjectif, toute la diversité d'une population caractérisée simplement par le fait d'une population simple dont le simple ciment est d'avoir été jeune à peu près au même moment. Si dans le mot « génération » il n'y avait que cela, je pense que ce ne serait pas sérieux et il faudrait abandonner l'utilisation du terme de « génération » pour ne plus en entendre parler. Mais en fait, derrière le mot de « génération », en sciences sociales, il y a beaucoup plus de choses en définitive. Derrière le mot de génération en démographie, derrière le mot de génération lorsque l'on analyse la protection sociale, lorsqu'on analyse les évolutions de la politique de santé, mais bien évidemment aussi celle de la famille, celle de la retraite, et l'ensemble des rapports politiques entre les classes d'âge, on ne peut plus faire l'économie du mot de génération. C'est ce que nous allons voir au cours de cette séance, c'est que le fait de génération, quand bien même il serait sans cesse galvaudé par la presse, le terme de génération continue de nous apporter énormément de choses en termes de compréhension des phénomènes de changement social de long terme tout au long de ce XXe siècle, en France, mais dans tous les pays existants. Pour ce faire, je vous présenterai d'une part la définition, tout un ensemble de définitions du terme de génération dans les sciences sociales, et à la suite de cette définition, de ces définitions, je présenterai ce en quoi les générations nous permettent de comprendre trois éléments essentiels dans les évolutions des sociétés. D'une part, l'évolution des différenciations sociales et des inégalités. Deuxième point, en termes d'intégration des générations et de leur socialisation. Et troisième point, c'est en quoi le terme de génération nous permet de comprendre tout un ensemble de rapports politiques et tout un ensemble de questions de justice entre les classes d'âge qui dissimulent des questions de justice entre les générations. En fait, pour commencer, il faut se donner une définition de génération. Nous avons vu le terme extraordinairement galvaudé tel qu'on le trouve dans la presse. En fait, pour comprendre le terme de génération, en définitive, dans les sciences sociales, il vaut mieux faire appel à la démographie et la création d'un autre terme par la démographie, qui est le mot de cohorte. Le mot de cohorte est en fait une simplification de l'idée de génération. Le mot de cohorte, cohorte de naissance, qualifie l'ensemble des individus qui sont nés la même année. En fait, ce mot de cohorte affaiblit le terme de génération pour le réduire à sa plus simple expression, de groupe d'individus apparaissant au jour, nés la même année. En fait, dans le couple cohorte-génération, nous avons le même rapport qu'entre le couple couche sociale et classe sociale, ou entre strate sociale et classe sociale, ou entre... Le mot de cohorte est en définitive une simplification extraordinaire, une neutralisation, une réduction de la diversité des termes que l'on trouve dans génération à extrêmement peu de choses. En fait, les cohortes de naissance, qui sont les générations au sens démographique du terme, sont un groupe social extrêmement simple, réduit à sa plus simple expression, qui n'exige rien d'autre que d'être né la même année. En fait, ces cohortes de naissance, ce sont des groupes, en définitive, d'une extrême diversité. Quel est donc ce ciment qui fait l'identité d'une génération, sinon le millésime de naissance ? Non, il n'y a rien d'autre derrière l'idée de cohorte. Ces cohortes, ce sont en fait des groupes d'une très grande généralité, où vous avez des hommes et des femmes, des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers, des ruraux et des urbains. Les cohortes, ce sont des groupes extrêmement simples, sans identité spécifique, totalement neutralisés, et c'est ce que, en démographie, on utilise. On passe en fait à l'idée de génération sociale lorsqu'il y a un petit peu autre chose derrière ces cohortes. On parle de génération sociale lorsque ces cohortes, lorsque certaines de ces cohortes sont spécifiées, sont caractérisées par des caractéristiques spécifiques. Par exemple, par le fait que leur taux de chômage est plus important, par le fait que leur taux de suicide tout au long de leur vie est plus important, par le fait qu'elles ont eu plus de chances de mobilité ascendante ou plus de chances de risques de mobilité descendante. Et on va passer du terme de cohorte au terme de génération sociale à partir du moment où ces cohortes ont quelque chose de plus que leur millésime de naissance. Et l'on va même parler de génération historique, pour des générations sociales qui prennent conscience de leur appartenance spécifique à une génération spécifique qui est différente des autres et qui est en situation d'opposition, voire de conflit avec les autres. C'est ainsi que l'on pourra parler de la génération qui a fait 1914 ou de la génération qui a eu 20 ans en 1914 comme d'une génération historique spécifique. On va parler aussi d'une génération, de la génération historique de 1968 pour une génération qui a eu visiblement dans la société française une position historique spécifique lorsqu'elle était jeune, mais aussi tout au long du reste de son existence. En fait, la cohorte, pour le démographe, pour les sciences sociales, c'est ce terme neutralisé, c'est un simple outil, mais un outil qui va nous permettre de comprendre, de déconstruire, de mettre en évidence tout un ensemble d'évolutions au sein de la société. Mais en fait, cette idée de cohorte de naissance, c'est une idée sortie de la démographie, c'est une idée qui... C'est une idée qui, depuis 1878, qu'existe le diagramme de Lexis, qui a été complexifié par l'ensemble des travaux de la démographie tout au long du XXe siècle. Ce diagramme de Lexis permet de comprendre l'imbrication profonde qu'il y a entre la succession des périodes, ici en abscisse, en ligne, se déplaçant vers la droite, chacune des périodes historiques, et lorsqu'on présente verticalement, lorsqu'on présente les âges, on va voir apparaître en diagonale la ligne de vie suivie par chacune des cohortes. Et ici, nous allons voir le fait, nous allons pouvoir matérialiser sur le diagramme de Lexis le fait que la génération qui a eu 20 ans en 1968, c'est aussi la génération qui a eu 40 ans en 1988 et qui s'apprête maintenant à sortir du monde du travail, du monde de la vie active pour sortir vers la retraite dans les toutes prochaines années. Et en fait, ce diagramme de Lexis n'est jamais autre chose que l'écriture de l'imbrication profonde entre âge, période et cohorte. En fait, il existe certainement peu de formules mathématiques qui s'appliquent à la perfection dans les sciences sociales, mais nous en avons une ici, qui est en quelque sorte le E égale MC2 de la démographie, ou le F égale M gamma, c'est-à-dire une formule qui s'applique à la perfection. Cette formule-là, c'est A égale P moins C, c'est l'âge d'un individu, c'est la période de mesure de l'âge de cet individu moins l'année de naissance Comme vous le voyez, la démographie peut vivre avec des relations mathématiques extrêmement simples. Votre âge est égal à la période 2000 moins l'année de naissance. C'est une formule qui s'applique à la perfection. Mais cette formule extrêmement simple, comme vous l'avez compris, permet de comprendre énormément de choses dans la dynamique historique tout au long du XXe siècle. Que, en fait, les générations qui ont eu 20 ans en 1914, ce sont les mêmes générations qui ont eu 40 ans au moment de la crise économique des années 30, ce sont les générations qui ont abordé 60 ans au moment de la reprise économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication étroite entre les cohortes de naissance et la situation relative des différentes classes d'âge au cours des périodes historiques. Cette relation-là, représentée par le diagramme de Lexis, permet de comprendre le fait que selon qu'une période va valoriser plus ses jeunes ou ses âgés, selon qu'une période va être plus propice au redémarrage économique et en général va être favorable aux embauches de jeunes, ou que l'on arrive dans une période historique qui dévalue les retraites, les situations des cohortes en présence, les situations des générations sociales en présence vont être extraordinairement différentes. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette présentation. Pour voir un exemple récent de ce qui se passe en termes de période et de classe d'âge, vous avez ici les périodes 1984, 1989, 1994. Vous avez ici différentes classes d'âge, 20 à 29 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, et ainsi de suite. Et en fait, ce dont on se rend compte, si nous représentons ici le diagramme de Lexis des taux de pauvreté, ce sont les chiffres que vous avez là, vous voyez que le taux de pauvreté avant 30 ans est passé de 9,3 en 1984 à 18,5 en 1994, et la dynamique continue depuis, alors que le taux de pauvreté des 60 à 69 ans est passé de 10,7 à 6,1. Entre 1984 et 1994, au sein de la population française, le taux de pauvreté est resté stable, en moyenne. Mais il dissimule le fait que les taux de pauvreté des plus âgés ont tendance à diminuer progressivement et que les taux de pauvreté des plus jeunes, des moins de 30 ans au même moment, s'accroît. Et c'est là, en fait, l'idée que les classes d'âge connaissent une reconstitution de leurs rapports les uns avec les autres. Mais en fait, c'est une erreur, c'est une illusion d'optique que de croire qu'il s'agit là d'une différence de classe d'âge. C'est aussi essentiellement des différences de cohorte de naissance, au sens où les personnes âgées d'hier, les plus de 80 ans d'aujourd'hui encore, ce sont des générations arrivées avant l'État-providence. Ce sont des générations arrivées trop tôt dans le monde du travail pour bénéficier de la montée en puissance du système de santé, pour bénéficier de la montée en puissance du salariat, tel que Robert Castel nous l'a présenté, qui sont arrivées trop tôt pour bénéficier à plein d'une retraite à l'issue de leur vie active. En revanche, les générations nées à partir de 1925 et plus fortement à mesure que l'on va se rapprocher de 1940 ou 1945 sont des générations qui ont vu cette montée en puissance de l'État-providence, du système de santé et de tout un ensemble de sécurités qui tendent à l'évidence à se délayer, à se déliter, à disparaître pour des générations plus récentes. Ce qui fait que, en fait, le diagramme de Lexis des taux de pauvreté, c'est l'exemple même de ce qui peut nous permettre de voir que la recomposition des classes d'âge les unes par rapport aux autres, ce sont aussi des histoires de cohortes qui connaissent des âges, qui connaissent des périodes à des âges différents et qui, parce que ce sont des cohortes différentes qui ont connu des histoires sociales radicalement différentes, vont connaître un âge élevé ou un âge jeune dans des conditions totalement différentes. C'est ce que nous allons voir au cours de ces trois points. Nous allons voir ce en quoi les générations nous permettent de voir les évolutions des inégalités sociales, en premier point. En deuxième point, ce en quoi les générations permettent de comprendre le changement des formes de socialisation et d'intégration sociale des différentes générations. Et troisièmement, ce en quoi les générations nous permettent de lire l'évolution de la justice entre les catégories d'âge et l'évolution des rapports politiques entre les différentes classes d'âge et entre les différentes générations au cours du XXe siècle. Mais évidemment, je dois insister sur un point spécifique. Les générations, c'est un terme extrêmement fort, extrêmement complexe. C'est un terme qui est aussi extrêmement dangereux, simplement parce que c'est un mot attrape-tout qui a tendance à agglomérer, à agglutiner tout un ensemble de sens. Il ne faut jamais oublier, et j'y reviendrai, que dans une génération, il y a des enfants d'ouvriers, des enfants de cadres, il y a des classes aisées et des classes populaires, il y a des hommes et il y a des femmes, des ruraux et des urbains. Ce qui fait que les générations, ce n'est pas une moyenne, c'est aussi toute une diversité de groupes entre eux, c'est un groupe extrêmement divers qui forme système, c'est-à-dire qu'au sein de la génération, il faut comprendre aussi qu'il y a des pauvres et des riches qui parfois connaissent des évolutions similaires et parfois au contraire s'écartent, comme nous le verrons. Mais donc sur le premier point de la question de la différenciation sociale entre les générations. Jusqu'à présent, nous avions vu la différence sociale entre les générations comme essentiellement un rapport de différence de valeurs, de différence de socialisation, notamment de socialisation religieuse, de rapport à la morale vis-à-vis de la contraception, vis-à-vis de l'avortement et ainsi de suite. Lorsque on se pose la question des générations au cours du XXe siècle, on a en vue immédiatement 1968 et tout ce que la génération de 1968 a pu apporter à la société française, c'est-à-dire la libéralisation de l'avortement, toute la militance autour de la contraception. Et on a l'idée, le fait que la génération du baby-boom par rapport aux générations d'avant, ça a été un conflit, une différenciation liée à un mode de rapport au politique, à la morale, radicalement différent. Mais en fait, si l'on décolle de 1968 pour avoir une vision plus large de l'histoire, il faut en revenir à l'idée de Kant, selon laquelle les générations qui se succèdent, sont reliées par un rapport d'inégalité fatale qui les relie. Kant avait à l'idée le fait que toute génération puis née, toute génération née après, bénéficie comme par privilège de toute l'épargne, de tout l'enrichissement, de tout le progrès social apporté par les anciens, par ceux qui ont précédé, et que toutes les générations nées après bénéficient en général de plus d'idées philosophiques, bénéficient de plus de croissance économique, bénéficient de l'électricité, bénéficient de l'automobile, bénéficient de tout un ensemble de progrès techniques, de progrès de la pensée, de progrès de tous ordres, qui proviennent en définitive du sacrifice des générations précédentes qui, sans possibilité de leur rendre, ont apporté aux générations suivantes tout un ensemble de choses. Et en fait, Kant avait à l'idée une injustice, une dissymétrie qui fait que les générations arrivées après ne peuvent absolument pas rendre cette dette à leurs anciens, cette dette que ces générations précédentes se sont sacrifiées pour laisser autre chose. Lorsqu'on s'interroge plus profondément sur cette question, cette dette que nous avons vis-à-vis de nos anciens, cette dette que nous avons vis-à-vis de nos morts et que l'on ne peut leur rendre, c'est une dette que nous ne pouvons en définitive rendre qu'à nos enfants, qu'aux générations ultérieures, en faisant en sorte que, puisque les prédécesseurs nous ont donné un monde meilleur que celui qu'ils nous ont connu, nous nous devons de remettre aux générations suivantes, à nos enfants, mais aux enfants des autres aussi, un monde encore meilleur que celui qui nous a été échu. Mais en fait, cette loi du progrès générationnel du long terme, cette loi qui fait qu'en définitive, nous héritons toujours d'un monde meilleur que celui de nos ancêtres, connaît bien évidemment, quand on a une conscience historique de ce qui s'est passé au XXe siècle, connaît des exceptions historiques très claires. La génération qui a eu 20 ans en 1914 est une génération qui, pour les hommes, pour un quart sont morts dans les tranchées, pour un autre quart ont été définitivement défigurés, handicapés, physiquement détruits par leur expérience sur les tranchées. Ce sont des générations qui ont connu aussi tous les maux physiques de l'époque, de la vie urbaine de l'époque, la tuberculose, la syphilis, et bien évidemment la grippe espagnole en 1919. C'est une génération qui, bien évidemment, alors qu'elle s'attendait à vivre un monde meilleur que la génération de ses parents, c'est une génération qui a connu quelque chose d'infiniment pire que tout ce que les générations précédentes avaient, immédiatement précédentes, avaient connu. Les générations qui ont eu 20 ans dans les années 30 sont des générations qui ont été aussi extrêmement éprouvées par la dynamique historique. Ce sont des générations qui ont tenté de trouver un premier emploi et de s'inscrire, d'entrer dans la vie adulte, dans des conditions sociales absolument exécrables, de ralentissement économique. Et bien évidemment, la génération qui a eu 20 ans en 1939 a connu, elle aussi, des difficultés de vie énormes. Mais lorsqu'on s'interroge ensuite sur la génération qui a eu 20 ans à partir de 1975, on peut s'interroger aussi sur la capacité des générations suivantes à connaître nécessairement un monde meilleur que la génération précédente. La génération qui a eu 20 ans en 1968 a bénéficié d'une situation où, 3 ans après la sortie des études, le taux de chômage est resté de 5%, d'environ 5%. Pour la génération qui a eu 20 ans en 80, le taux de chômage est passé à 25% dans les 3 ans qui ont suivi la sortie des études. Et pour la génération qui a eu 20 ans en 85, la situation était encore pire, vu que nous sommes passés à un tiers de taux de chômage, à un taux de chômage d'un tiers dans les 3 ans qui ont suivi la sortie des études. Donc, 20 ans en 1980, les générations qui sont nées aux alentours de 1960 ont été les générations qui ont été concomitantes d'un grand ralentissement économique, de grandes difficultés à rentrer dans le monde du travail, de grandes difficultés de tous ordres qui se lisent actuellement dans l'évolution de la société française, notamment autour du taux de chômage, mais autour d'indicateurs extrêmement simples, dont nous voyons l'évolution actuellement. Par exemple, en 1975, entre le salaire moyen des gens de 30 ans et le salaire moyen des gens de 50 ans, il existait un décalage d'environ 15% en 1975. En 1995, le salaire à 30 ans et le salaire à 50 ans se sont mis à s'écarter et à passer à un différentiel de près de 40%. C'est-à-dire, on est passé de 15% de décalage entre les 30 et les 50 ans à près de 40%. C'est une variation énorme, extraordinaire, qui fait que le salaire à 30 ans a relativement, au salaire des personnes de 50 ans, décru de près d'un quart. Vous pouvez imaginer ce qui se passerait si on proposait un nouvel impôt réduisant d'un quart votre niveau de revenu. C'est pourtant implicitement ce qui s'est passé bon an mal an sur 20 ans d'évolution des classes d'âge en France depuis une vingt-cinquaine d'années où les gens de 30 ans ont connu une progressive décote à la valeur du jeune alors que la société progressivement valorisait plutôt les catégories d'âge relativement plus élevées. Nous avions vu tout à l'heure la même chose sur le diagramme de Lexis, à savoir le fait que le taux de pauvreté aux alentours de 50 ans a plutôt eu tendance à décroître et le taux de pauvreté à 60 ans a lui aussi connu une certaine baisse. Ce que l'on trouve sur le salaire, nous le trouvons en définitive à peu près sur l'ensemble des indicateurs sociaux disponibles. aussi bien donc sur le salaire que sur les chances d'accès aux catégories cadres et professions intellectuelles supérieures, où il y a eu un grand boom pour les générations du baby-boom dans les chances d'accès aux catégories cadres et aux catégories professions intermédiaires. Nous voyons dans les chances d'accès à une consommation de catégories relativement supérieures, dans les chances de départ en vacances, une grande recomposition des rapports entre des différences entre les générations et le fait que... avec le fait que les générations du baby-boom ont connu une extraordinaire mobilité ascendante par rapport aux générations qui les ont précédées, et que les générations venues après ont connu comme un grand ralentissement au long des générations successives. Ici, vous avez les cohortes de naissance en ligne. Ici, la génération née en 1930, la génération née en 1940, en 1950, et ainsi de suite. Et si nous nous intéressons au taux de mobilité ascendante, c'est-à-dire à la proportion de ceux qui sont en situation supérieure à celle de leurs parents, à l'âge ici de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans et de 50 ans, nous voyons un taux de mobilité ascendante qui connaît c'est-à-dire des chances d'accès à une position supérieure à celle de ses parents, qui connaît une grande envolée pour la génération du baby-boom née aux alentours de 1945, et ensuite pour les générations nées après 1950 et ainsi de suite, une retombée de cette vague de croissance de la mobilité ascendante qui est particulièrement intéressante. Mais que s'est-il passé pour la génération née aux alentours de 1945 ? C'est une génération qui avait des parents en situation particulièrement modeste. Naître en 1945, c'est avoir en moyenne des parents nés aux alentours de 1915, dont on a vu que c'était une génération particulièrement touchée par la crise de l'entre-deux-guerres et par le ralentissement économique, alors que la génération née aux alentours de 1945 est arrivée dans le monde du travail à peu près à l'époque où l'État-providence a connu une croissance extraordinaire, où par ailleurs le système de santé, le système d'éducation ont connu des recrutements particulièrement importants, où l'aérospatial créait à l'époque le Concorde et planifiait l'Airbus, où France Télécom faisait le rattrapage du téléphone, où le système de santé recrutait tout un ensemble de médecins pour remplir les CHU qui se construisaient à l'époque. Il y avait là une dynamique aussi bien publique que des recrutements semi-publics. À l'époque, EDF planifiait l'électricité nucléaire, le CEA recrutait de façon particulièrement intensive, le CNRS et l'université ont connu par ailleurs, aux alentours des années du début des années 70, une croissance des recrutements extraordinaire dont a bénéficié notamment cette génération du baby-boom qui a connu une vague de mobilité ascendante particulièrement intense. Si nous nous intéressons à la mobilité descendante, c'est-à-dire au risque de déchoir par rapport à ses parents, ce que nous constatons, c'est que pour les générations nées après 1950, il existe à 30 ans, ce sont les carrés que vous avez ici, une très forte croissance des risques de déclin social, de déclassement social par rapport à ses parents, à 35 ans, et ainsi de suite, qui montre ce grand ralentissement en cours. Mais en fait, ici, nous voyons des évolutions en moyenne. Il faut être conscient du fait que ces évolutions en moyenne dissimulent des évolutions en variance, c'est-à-dire dans la diversité hiérarchique à l'intérieur de chacune des générations. Les générations nées entre 1925 et 1945-50 ont été concomitantes d'une montée en puissance de l'État-providence qui a une certaine tendance à rapprocher les catégories populaires, les classes populaires et les catégories les plus aisées de leur génération. C'est-à-dire que l'État-providence a pour fonction et pour vertu d'égaliser relativement au sein d'une génération les situations sociales. Et les générations nées entre 1925 et 1945 connaissaient cette dynamique générationnelle de relatif rapprochement entre les situations les plus défavorisées et les plus favorisées. À quoi assiste-t-on depuis pour les générations qui successivement rentrent dans le monde du travail depuis la fin des années 60, début 70. Nous assistons à un déclin de la protection en termes de chômage adressée aux jeunes, nous assistons à une croissance de la flexibilité, nous assistons à tout un ensemble de choses qui font que, au sein des nouvelles générations recrutées, alors que les mieux privilégiés qui arrivent à passer avec succès les épreuves de sélection malthusienne de l'excellence vont connaître, comme leurs prédécesseurs, une carrière au moins aussi favorable, les catégories populaires, au contraire, ont tendance à décrocher. Ce qui veut dire que pour les générations nées à partir de 1950 et la suite, nous créons progressivement des générations de plus en plus inégales entre elles, entre ceux qui s'en tirent au moins aussi bien que leurs prédécesseurs et les générations suivantes et les catégories populaires de ces nouvelles générations qui, au contraire, connaissent progressivement une déchéance sociale de plus en plus fréquente à un degré qui était absolument inimaginable, bien évidemment, à l'époque où le taux de chômage ne dépassait pas 5%. Et cette situation-là est particulièrement inquiétante en ce sens où nous voyons dans la dynamique de l'arrivée des nouvelles générations, où nous voyons progressivement une certaine forme de délitescence de l'État-providence qui en quelque sorte est délitée à la racine du renouvellement générationnel. Cette situation est particulièrement désagréable et risque de donner lieu à une situation où, avec leur vieillissement, les générations nées aux alentours de 55, 60, 65 et ainsi de suite, risquent, en vieillissant, de, nous allons le voir tout à l'heure, donner lieu à un débat social et à des risques sociaux nouveaux, inattendus, pour ceux qui ont en vue la simple dynamique des Trente Glorieuses et le progressif établissement de l'État-providence, qui visiblement a de plus en plus de difficultés à se succéder à lui-même pour les générations plus récentes. Mais cela nous amène à nous intéresser au deuxième point, c'est-à-dire à l'intégration sociale et aux formes de socialisation qu'ont rencontrées les différentes générations successives à leur entrée dans le monde du travail. Lorsqu'on a l'idée de l'établissement et de la création d'une génération, nous avons à l'idée le fait que pour qu'il y ait génération, il faut qu'il y ait une socialisation spécifique. C'est-à-dire qu'au moment de l'entrée dans la vie adulte, au moment entre la sortie du monde de l'école et l'entrée proprement dite dans la vie adulte, il se passe quelque chose de structurant qui fait que pour cette génération, quelque chose va se passer dont elle va conserver la trace définitive ou en tout cas au long terme et une expérience spécifique. Cela s'appelle la socialisation où il va y avoir une progressive adaptation entre les volontés et les choix et les possibilités personnelles posées par la famille, par les formes d'éducation, par le niveau d'éducation aussi, et une adaptation de tout cela avec ce que la société va pouvoir proposer à ces jeunes entrants dans le monde du travail. En fait, lorsqu'on a en vue le modèle d'âge adulte tel que l'âge adulte peut être défini, nous avons en vue un modèle qui est véritablement hérité des Trente Glorieuses. Être adulte, nous continuons d'avoir là à l'idée que être adulte, c'est avoir un emploi fixe, avoir une famille à peu près stabilisée, ou en tout cas être en situation de prendre des responsabilités de long terme par rapport à une situation d'âge adulte où on parvient à une certaine forme de stabilité. Ce modèle-là était effectivement un modèle extrêmement imposé pour les générations qui sont rentrées dans l'âge adulte, dans le courant des années 60 et encore dans le courant du début des années 70, où le système social de travail par rapport à la sphère professionnelle, mais aussi le système d'entrée dans la famille, était particulièrement précoce, mais aussi rigide, quasiment autoritaire, assez souvent machiste d'ailleurs, et particulièrement centré sur la figure du pater familias. Et cette forme d'âge adulte a complètement éclaté dans le courant des 20 à 30 dernières années, depuis en tout cas 1975, qui a d'une façon générale frappé le glas de la forme de l'emploi à vie et pour toujours. Et 1975 a été pour les nouvelles générations rentrant dans le monde du travail, a été l'apparition d'un nouveau mode de socialisation, d'un nouveau mode d'entrée dans la vie adulte, où en définitive, et c'est là le problème, où en définitive, l'âge adulte en tant que modèle régnant universel monopolistique a éclaté pour une partie importante de la population et qui fait défaut en définitive surtout aux catégories sociales les plus fragiles. En fait, nous assistons progressivement à l'apparition d'une deuxième jeunesse au-delà de 25 ans. Deuxième jeunesse qui va de 25 à peut-être 35 ou 40 ans, voire peut-être plus, où l'on assiste à une population importante qui est d'âge adulte physiquement, mais qui est dans l'incapacité la plus totale de se conformer à l'ancien modèle adulte, d'être en mesure de prendre des responsabilités par rapport à soi-même au long terme, faute de pouvoir accéder à la stabilité vis-à-vis du travail et à la stabilité vis-à-vis de la famille. Mais évidemment, c'est là le legs de nouvelles formes de socialisation où, en quelque sorte, on demande à ces jeunes entrant dans le monde du travail, on leur demande d'être flexibles et malléables et d'être infiniment adaptables aux nouvelles situations imprévisibles. Et en même temps, on leur demande, malgré tout, d'être adultes et stables et responsables. C'est, je crois, là, une certaine forme de « double bind », aurait dit Gregory Bateson, de double contrainte où on demande à ces nouveaux jeunes qui peuvent avoir 40 ou 45 ans aujourd'hui d'être à la fois stables et responsables et en plus infiniment mobiles et flexibles. Et cette situation de double contrainte a pour conséquence aussi, c'est ce que nous disait Gregory Bateson, une certaine forme de conséquence que les plus fragiles n'ont qu'un refuge, c'est celui de la schizophrénie. Et en quelque sorte, si on se rappelle, ou en tout cas des difficultés d'adaptation à un monde qui met l'individu dans l'incapacité de se conformer à un modèle clair. Et en fait, si on a en vue les pères fondateurs de la sociologie française, Émile Durkheim, Maurice Halbwax, sur le lien entre intégration sociale et suicide, on a à l'idée le fait qu'une génération qui rate son intégration sociale, une génération qui rate sa forme de socialisation, est en quelque sorte disposée à fournir plus de suicidés. Il se trouve que justement, les générations nées à partir de 1955 connaissent des taux de suicide deux fois plus importants dans leur génération par rapport à leur âge que ceux qu'avaient connus les générations précédentes nées dans les années 30, début des années 40, moitié des années 40. Et qu'en fait, le taux de suicide des nouvelles générations, le taux de suicide des jeunes, a, dans le courant des années 80, connu un doublement pour ces nouveaux jeunes arrivant à l'âge adulte. S'y retrouver là, effectivement, quelque chose de particulièrement fort, le fait que, au-delà du suicide, ce sont évidemment, bien évidemment, le suicide dissimule autant et beaucoup plus de difficultés psychosociologiques d'identification, d'intégration de nouveaux jeunes dans la vie professionnelle. Et bien évidemment, nous avons là l'indication particulièrement inquiétante du fait que ces nouveaux jeunes mal intégrés, risquent bien, avec l'entrée dans la maturité, ou en tout cas l'entrée en âge, ou tout simplement avec leur vieillissement, d'être d'anciens jeunes en grande proportion mal intégrés, qui vont être progressivement des personnes âgées particulièrement mal intégrés, simplement parce que le propre des jeunes, c'est d'être à terme des personnes âgées. Ce qui nous amène à aborder le troisième point, qui est celui de la régulation politique entre les générations et de la justice sociale entre les générations sociales. Ces nouvelles générations, ça nous amène à parler de la régulation sociale entre les générations, où, en définitive, ces inégalités de génération, ces formes différentielles d'intégration des générations et de socialisation des générations donnent lieu évidemment à des rapports politiques implicites entre les générations. Lorsque l'on a en vue l'histoire récente, ou en tout cas de la dernière moitié de ce siècle en France, nous avons évidemment en vue 1968. On a l'idée, le fait que le conflit des générations, le rapport social et politique entre les générations, ce serait en fait des générations d'âgés demandant trop aux générations jeunes se retrouvant en situation d'être dans l'obligation de faire leur place, refusée par les plus âgés. En définitive, comme nous l'avons vu sur l'histoire sociale du XXe siècle, la génération qui avait 20 ans en 1968 n'était certainement pas la génération la moins privilégiée par l'histoire sociale. En définitive, la génération qui avait 20 ans en 1968 n'était certainement pas une génération qui a connu une situation sociale pire que la génération qui a eu 20 ans en 1914, qui a eu 20 ans en 1929, qui a eu 20 ans en 1939 ou qui a eu 20 ans, comme on l'a vu, en 1975. Cela nous indique que le conflit entre les générations, ce n'est pas forcément le reflet exact et immédiat des inégalités entre les générations, au sens où les générations nouvelles se rebelleraient contre le sort néfaste que les anciennes générations leur font. Au contraire, en définitive, on aurait plutôt l'impression que les générations qui se révoltent seraient plutôt les générations qui se retrouvent confrontées à une situation plutôt favorable. Cela nous rappelle ce que nous disait Margaret Mead. Margaret Mead a produit en 1970 un livre traduit en français par « Le fossé entre les générations ». Et Margaret Mead nous expliquait que dans les sociétés traditionnelles qu'elle analysait, dans les sociétés traditionnelles, sans changement social, les anciens ont un grand pouvoir, celui de représenter l'expérience, le savoir, l'accumulation de tout ce qui fait l'identité de la communauté. Et en tant que tel, les anciens sont particulièrement valorisés. En revanche, lorsqu'on rentre dans les sociétés modernes marquées par un changement social extrêmement rapide, l'expérience accumulée par les anciens est fondamentalement dévalorisée. Imaginons ce qu'a pu être le fait d'avoir 60 ans en 1968. Ce sont des générations qui avaient été socialisées à un niveau de consommation trois fois moins important que les générations qui les ont suivies. Né en 1908, un individu a été socialisé à la récession économique, à la crise, à la privation perpétuelle. Et bien évidemment, que peuvent dire aux nouvelles générations, les générations qui ont une soixantaine d'années, en 1968 ? Évidemment, le changement social, le changement économique, le fait que les Trente Glorieuses ont apporté une multiplication par trois du pouvoir d'achat en France, fait que les anciens sont porteurs, bien évidemment, d'un passé relativement dévalorisé. Depuis 1975, il faut avoir à l'idée le fait que le pouvoir d'achat n'a pas été multiplié par 3, il a simplement augmenté d'un quart. C'est une situation où l'un des moteurs du changement social se retrouve bien évidemment particulièrement réduit. C'est une situation aussi où les jeunes d'aujourd'hui rentrent dans la vie avec un niveau de vie, un pouvoir d'achat qui n'est pas plus élevé que celui de leurs anciens. Et c'est en fait voir avec Margaret Mead le fait que le ralentissement économique et la valorisation des anciens, c'est quelque chose qui va effectivement de pair. Mais que se passe-t-il aujourd'hui en termes de représentation sociale, intellectuelle, politique des générations ? Il est un chiffre que j'aime bien répéter, qui est celui que l'âge moyen du représentant syndical et politique en 1982 était de l'ordre de 45 ans. En 97, il est passé à 57 ans. En 17 ans, l'âge moyen du représentant syndical et politique a vieilli d'environ 12 ans. Ce n'est pas la même génération, mais c'est à peu près la même génération. Autrement dit, les quadras des années 80 sont devenus progressivement les quinquas des années 90 et s'apprêteraient à devenir les sexas des années zéro du 21e siècle, à voir la façon dont le système politique ou les hommes politiques et les hommes syndicaux, disons-le, se succèdent à eux-mêmes. En fait, tout cela signale un problème social, sociologique de la société française contemporaine. Il n'est pas réduit à la société française contemporaine parce qu'il est assez général dans d'autres pays, nous y reviendrons certainement, où, en définitive, il existe un problème de transmission aux nouvelles générations, aussi bien dans le monde politique que dans le monde de la recherche et de l'université, que dans le monde du journalisme et dans un grand nombre de mondes politiques, sociaux, médiatiques et de tous ordres, il existe comme un problème, une crise de transmission et de socialisation des nouvelles générations où, en définitive, la place à faire aux nouvelles générations est énorme et rencontre relativement peu de suite. Et en fait, cette question est particulièrement inquiétante lorsqu'on a en vue la question de comment est-ce que l'État-providence peut se succéder à lui-même. En définitive, comme nous l'avons vu au cours de cette séance, les jeunes sont progressivement de plus en plus réduits dans leur capacité d'accès à l'État-providence. Les jeunes nés dans le courant des années 70 sont des jeunes qui cessent leurs études aux alentours de l'âge de 21 ans, qui connaissent en moyenne 3 années de chômage après leur sortie de l'école, qui donc rentrent véritablement en termes de cotisants à la retraite à l'âge de 24 ans et à qui on demande 40 ans d'années d'annuité de cotisation sociale à partir de 24 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'on se pose la question du système de retraite, pour les jeunes d'aujourd'hui, nous voyons que la retraite à 60 ans a vécu. Mécaniquement, c'est une génération qui ne pourra pas prendre sa retraite avant l'âge de 64 ans. C'est un exemple typique de ce qui se passe aussi du côté du système de santé, du côté de l'évolution du système de protection chômage et de tout un ensemble de systèmes de protection de l'État-providence, où, en quelque sorte, on demande aux jeunes de cotiser et de financer par les cotisations un système de protection sociale dont, en définitive, à terme, elle serait appelée à ne plus bénéficier. Rappelons-nous que, en termes de cotisation, la famille, par exemple, qui bénéficie avant tout aux jeunes ou à des jeunes d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années, la famille est passée de 15% du taux de salaire brut dans les années 60 à moins de 5%. La retraite, en revanche, est passée de 5% à plus de 18% et est appelée à doubler encore à l'horizon d'une vingtaine d'années. La question politique entre les générations, ce n'est pas évidemment de sacrifier les jeunes contre les vieux ou de sacrifier les vieux contre les jeunes, c'est de s'interroger sur le fait que pour rendre pérenne ce système social, pour lui donner une suite à lui-même, il est bien évidemment très important que l'ensemble des générations puissent être convoquées à la discussion sur son propre avenir, alors qu'actuellement, nous voyons que les jeunes ne sont pas tenus informés, ne sont guère convoqués dans la négociation politique et sociale et syndicale autour de l'avenir de l'État-providence. Et nous avons là, à l'idée, le risque énorme pour les nouvelles générations d'être les victimes d'un changement social qui ne demanderait pas à ces jeunes d'accepter un changement d'État-providence auquel, de toute façon, elles seront avant tout, elles seront les contributeurs. Par exemple, dans l'idée de passer à un système de fonds de pension, par exemple, on va en définitive demander aux jeunes d'être des doubles payeurs de la retraite, c'est-à-dire de cotiser pour la retraite des anciennes générations et en plus d'épargner pour leur propre retraite et faire ainsi des jeunes des doubles cotisants, des doubles payeurs de leur propre retraite. C'est là, évidemment, un danger auquel les nouvelles générations sont soumises, et c'est là un danger énorme. Et si nous nous disons, si nous laissons à volo disparaître la question, si nous cachons la question la représentation politique des différentes générations, nous risquons bien de nous retrouver confrontés à une grande démagogie utilisée par les uns ou par les autres pour plomber et faire disparaître la protection sociale telle que nous avons mis une cinquantaine d'années pour la connaître. Évidemment, ne pas s'interroger sur la justice entre les générations, c'est laisser la place à la démagogie des fossoyeurs de l'État-providence, des lobbyistes des fonds de pension et des idéologues des assureurs qui sont, disons-le, assez présents sur ce projet pour une destruction de l'État-providence par un sapage générationnel de l'État-providence dans un avenir extrêmement proche. Merci beaucoup.
Bien, nous allons passer aux questions. Voilà, une question là-bas, madame. Levez-vous. Enfin, monsieur,
oui.
Pardon.
Vous avez parlé des différentes générations, chaque cohorte ayant ses propres valeurs. Comment jugez-vous la famille éclatée d'aujourd'hui ? On l'appelle aussi, par moments, la famille recomposée qui devient un peu la règle.
Cette question, en quelque sorte, de génération sous un autre sens, celui de génération familiale, c'est-à-dire de position en termes de rapport de filiation, la génération des parents, la génération des enfants, la génération des grands-parents, et ainsi de suite, pose effectivement tout un ensemble de problèmes générationnels de recomposition. En fait, il faut voir que, d'une façon générale, la sociologie de la famille nous représente le fait que la nouvelle famille, c'est une famille réseau qui se recompose, qui se détruit, mais qui surtout se reconstruit à un autre moment pour donner à l'idée le fait que nous vivons tous maintenant dans un réseau familial extrêmement dense, complexe, et ainsi de suite. Ce que j'y vois aussi, c'est une très grande fragilité à laquelle sont soumises les familles des classes populaires, les familles vivant dans les HLM et ainsi de suite, qui sont la face la plus fragilisée et la plus difficile des familles dites recomposées. C'est-à-dire que les familles monoparentales, où le père est radicalement absent, non seulement absent de la famille ou de la cellule familiale ou du logement, le père peut être radicalement absent, et d'autant plus à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale simple telle qu'on peut la voir actuellement. La difficulté avec la socialisation familiale des jeunes vivant dans des familles recomposées, c'est qu'il y a là aussi une très grande incertitude, et une incertitude d'autant plus pesante que l'on descend dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que, d'une façon générale, ces familles recomposées fonctionnent bien, voire très bien, lorsqu'on analyse l'évolution de la famille dans les catégories, dans les classes supérieures. Mais en revanche, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les classes les plus en difficulté, les difficultés sociales d'intégration, de socialisation, d'identification des enfants dans des familles radicalement éclatées où le père n'existe pas, où le père est soumis au chômage de longue durée et ainsi de suite et disparaît peu à peu de la cellule familiale, donne lieu effectivement à ces nouveaux jeunes qui subissent ces formes de famille, un avenir extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que cette famille éclatée est extrêmement fréquente pour les générations né à partir de 1955. 55, c'est aussi aujourd'hui les générations qui ont une 45aine d'années. Dans les catégories populaires, ce sont des générations qui aujourd'hui sont soumises à un taux de chômage de l'homme de l'ordre de 9% et de la femme de l'ordre de 15%. Imaginez ce que peut être la socialisation des enfants de ces générations qui ont 45 ans aujourd'hui, dans un contexte où le père est absent ou au chômage de longue durée, ou la mère est en situation de travail ultra flexible et d'emploi à mi-temps. Que donne-t-on comme vision de l'avenir d'entrer dans la vie adulte à ces nouveaux jeunes, à ces nouveaux enfants qui actuellement sont à l'âge d'être adolescents ou de trouver un emploi?
Une question là.
Oui, je voudrais vous poser deux questions sur deux points que vous avez, dont vous avez dit que vous pouvez apporter quelques développements. Celui des pays étrangers, puisque vous avez dit que c'est un phénomène qu'on trouvait un petit peu ailleurs. Avec une question peut-être un petit peu plus précise, est-ce qu'il y a des systèmes qui réussissent mieux? Est-ce que peut-être la société américaine, ou je ne sais pas, par un certain dynamisme, verrait ce problème s'atténuer? Et puis l'autre question, vous avez dit ça, c'est lourd de problèmes assez cocasses, assez inattendus. Est-ce que vous avez par exemple des données précises sur, non pas les gens les plus pauvres de la jeune génération, mais par rapport à tout ce qui peut être l'effervescence intellectuelle? Est-ce que, puisqu'un monde ça se construit aussi de nouvelles idées, est-ce que les jeunes arrivent à accéder comme ça à des postes de chercheurs ou dans les rédactions ou des choses comme ça qui laissent penser que quand même de ce côté-là, il n'y a pas un appauvrissement pour les jeunes générations?
Oui, en fait, sur la question de la comparaison internationale, il faut voir que, enfin, j'ai cru, avant de m'intéresser aux États-Unis, j'ai cru que les États-Unis étaient effectivement plus en mesure d'égaliser, en quelque sorte, les difficultés des nouvelles générations par un jeu de marché souple, flexible, de cette nature-là. En fait, en retravaillant sur les États-Unis, j'ai constaté que la dynamique française avait quelques équivalents. C'est-à-dire que, par exemple, la génération qui a eu 20 ans en 1929 aux États-Unis, à partir de la reprise économique à partir de 45, quoi, à partir des Golden 50s et 60s, les générations qui ont 20 ans en 1929 n'ont jamais récupéré, n'ont jamais rattrapé le retard qu'elles avaient pris en ayant 20 ans au mauvais moment de la grande crise de 29 et de la suite. On retrouve ça, en fait, pour les générations qui ont eu 20 ans dans les Golden 60s. À l'époque, les États-Unis, c'était un État-providence en construction. C'est-à-dire que les États-Unis des années 60, c'était un État social en construction qui investissait massivement pour l'avenir. C'était, on n'envoie pas des hommes sur la Lune sans se projeter dans l'avenir, par exemple. Mais les générations qui ont eu 20 ans aux États-Unis à partir des années 70 et 80, lorsqu'il y a eu le grand freinage économique américain, ont, elles, subi, sans le savoir, les conséquences d'un ralentissement général de la projection de la société américaine dans l'avenir. Actuellement, il y a du mieux, mais ce mieux aux États-Unis est exclusivement pour les 10% les plus élevés dans la hiérarchie du revenu, des salaires ou des diplômes aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la reprise américaine existe, mais elle est exclusivement concentrée sur l'élite qui se trouve dans la crème supérieure des 10%. L'Américain moyen ne bénéficie pas de la croissance économique actuelle aux États-Unis. L'Américain des classes populaires, c'est-à-dire le tiers inférieur, continue de baisser en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat et de tout ce que vous voulez, non pas une stabilisation, c'est une baisse véritable pour les générations nouvelles aux États-Unis. Ce qui fait que les générations nouvelles aux États-Unis sont de plus en plus inégales. En fait, des pays réussissent mieux, effectivement, c'est la Suède ou l'Allemagne, c'est-à-dire ce sont des systèmes sociaux qui ont pour principe de tout faire pour intégrer les jeunes dans l'apprentissage ou dans toute autre forme d'emploi pour les socialiser dans l'emploi. Et qu'effectivement, les systèmes nordiques ont plus de possibilités à intégrer leurs jeunes. Et l'Allemagne aussi connaît des choses relativement proches. L'Italie fait encore pire que la France, c'est-à-dire que l'Italie concentre tout l'État-providence sur les classes d'âge les plus élevées, et tout ce qui vient ensuite est radicalement sapé. Ce qui fait qu'effectivement, pour les jeunes Italiens, la famille, c'est la survie. La famille, c'est à la fois le RMI, le chômage et, tout ce, et le couvert et la blanchisserie. Mais c'est aussi le fait que les familles, enfin, les parents et les grands-parents en Italie sont les riches. Mais quelles vont être les conséquences inattendues, difficiles, vous avez dit, parce que j'avais dit cocasse, ou en tout cas étrange, je pense que les grandes conséquences, c'est plutôt, les grands risques, c'est plutôt le fait que, simplement parce que nous connaissons actuellement une reprise, l'élite des toutes nouvelles générations va connaître, effectivement, vraisemblablement, un nouveau démarrage pour connaître des situations meilleures. Mais les catégories populaires des nouvelles générations, visiblement, ne sont pas actuellement en situation de bénéficier de cette reprise économique. Simplement parce que le taux de chômage se maintient, les nouvelles formes d'emploi ultra flexibles, on n'y remédie absolument pas et ce n'est pas la question. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les générations qui ont souffert, ce sont une vingtaine de générations successives qui sont nées à partir de, aux alentours de 1955. 55, 75, ce sont là des générations qui ont connu un ralentissement économique extrêmement fort et dont elles vont continuer de porter les séquelles. Et en fait, on se dit chaque fois qu'il y a une reprise économique que ça va aller mieux pour les jeunes. Mais il ne faut jamais oublier que ces anciens jeunes de 1975, qui étaient jeunes en 1975, sont des gens qui ont aujourd'hui 45 ans. Et ils ont été, en quelque sorte, les premiers à subir les conséquences graves du ralentissement économique en termes de risques vis-à-vis de leur accès ultérieur à une retraite, en termes de niveau de revenus relativement moindre, en termes de fragilisation de l'emploi, en termes de difficultés de tous ordres vis-à-vis de leur famille. Et en fait, ces nouveaux jeunes... la difficulté, c'est que, quand bien même il y aurait un redémarrage, nous vivons avec une situation où vous avez tout un ensemble de cohortes nées aux alentours des années 60, 65, 10 ans avant, 10 ans après, qui continuent à porter les conséquences des 20 années de ralentissement économique que nous quittons actuellement ou que nous semblons quitter actuellement. Évidemment, si cette croissance n'est que conjoncturelle, c'est-à-dire si comme à la fin des années 80, ce que nous croyons être un redémarrage de long terme, ce n'est en fait qu'une fluctuation de la croissance, comme les trois dernières années des années 80 avaient été les trois petites glorieuses par rapport aux 30 glorieuses d'avant. Si ce n'est qu'un saut conjoncturel, il est clair qu'il n'y aura même pas ce rattrapage-là. Mais en fait, nous avons laissé sur des générations qui actuellement rentrent en maturité des séquelles extrêmement lourdes que nous ne pourrions gérer qu'en faisant un plan massif d'éducation, de formation continue, tout autre chose que ce qu'est la formation continue aujourd'hui en France. C'est-à-dire avoir une formation continue à la suédoise, par exemple. La Suède, 8 millions d'habitants, 2 millions d'inscrits en cours du soir. Mais ça ne se fait pas sans un investissement massif de quelque chose qui s'appelle l'État-providence et dont on nous dit qu'il est dépassé. Il n'est pas dépassé, il est ce que l'on veut en faire politiquement.
Une question là.
Vous nous avez donné plusieurs exemples de parallélisme des avantages et des inconvénients pour une génération donnée. Est-ce qu'on peut en faire une règle générale ? C'est ma première question. Ma deuxième question, quelle solution vous voyez ? Est-ce que, par exemple, on pourrait établir une fiscalité fonction de la génération ? Enfin, modulée par la génération.
La situation telle que nous... peut-il y avoir un rattrapage, pour simplifier ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'arriver au mauvais moment dans le monde du travail, le fait d'avoir 20 ans dans une période historique néfaste est nécessairement quelque chose qui va peser sur l'ensemble de la génération. Je n'en suis pas sûr, effectivement, ce que je pense, c'est qu'il y a des conséquences au long terme d'une mauvaise arrivée dans le monde du travail s'il n'y a pas à un moment des processus sociaux de partage des problèmes sociaux. C'est-à-dire que si effectivement on se donne pour règle politique, on ne partage pas, c'est une règle politique de dire nous refusons la redistribution, nous refusons de partager. Si on fait ça, effectivement, les générations qui rentrent au mauvais moment, c'est tant pis pour elles. et ce sera à vie qu'elles en porteront les séquelles. Mais faudrait-il, dans ce cas-là, un système fiscal par génération ? Non, je ne crois pas. Je crois en revanche que si on fait un système redistributif par génération, on a plus à l'idée le fait que nous sommes en mesure, dans ce cas-là, de construire un système social plus équilibrant pour les différentes générations en présence. La façon, enfin, malheureusement, ce type de système qui se pose la question d'équilibrer les différentes générations les unes par rapport aux autres, de façon à pouvoir lisser pour les différentes générations ce qui va se passer pour leur destin ultérieur, sera une bonne chose pour rattraper. Mais nous faisons le contraire. En définitive, si nous regardons, par exemple, la façon dont les retraites, les caisses de retraite complémentaires font leurs décisions sur le rééquilibrage de leurs comptes. Que font-elles actuellement ? Elles décident que les jeunes qui achètent leurs points actuellement les paieront 50% plus cher pour avoir les mêmes points. Et en fait, les points des jeunes, maintenant, vont être alignés sur les prix, alors que pour les anciennes générations, c'était aligné sur les salaires. C'est-à-dire que les nouveaux jeunes achètent plus cher, quelque chose qui va progressivement, au fur et à mesure de leur carrière, perdre de la valeur en termes de salaire progressif des nouvelles, de l'histoire des 30 années à venir, des 30 années à venir. Quelles vont être les conséquences ? C'est le fait que les jeunes financent lourdement un système de redistribution sociale qui, à terme, va moins leur bénéficier. Vous avez là un exemple de redistribution inverse par rapport aux générations, c'est-à-dire de les générations qui, en quelque sorte, sentirent relativement mieux, semblent faire peser le poids de la récession économique et du ralentissement économique depuis 20 ans sur les nouveaux arrivants. Et en définitive, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? C'est tout mettre en œuvre pour ne pas avoir des politiques de stop and go en termes de recrutement, quel que soit le lieu. Actuellement, nous avons une reprise économique. Toutes les sociétés publiques et privées se rendent compte qu'elles n'ont pas recruté pendant une vingtaine d'années. Elles se rendent compte que leur pyramide des âges est complètement déséquilibrée. Chez France Télécom, comme dans un grand nombre d'autres endroits, les pyramides des âges ressemblent à un champignon atomique qui s'élève progressivement, une espèce de pyramide posée sur leur pointe, sur sa pointe. Et par conséquent, tentent de recruter en urgence maintenant qu'elles se rendent compte qu'elles vont avoir des besoins énormes de recrutement. Ou en tout cas, elles pensent qu'elles vont avoir un besoin fort de recrutement. Tout cela est complètement spéculatif. C'est-à-dire qu'elles ont refusé d'acheter du jeune pendant des années, et brusquement, elles en achètent énormément. Tout cela est contre-productif. Tout ça correspond à du stop and go complètement, sans aucune vision de long terme. Et ce que je défends, c'est que pour avoir une vision de long terme, il faut avoir une vision... il faut aussi avoir une vision générationnelle. C'est-à-dire que maintenant que l'on recrute de nouveau, n'est-ce pas une erreur monstrueuse que de recruter exclusivement des jeunes de moins de 35-40 ans ? C'est ce qu'on fait effectivement actuellement aux États-Unis aussi. Et sans se rendre compte qu'il y a eu des générations qui ont vécu un énorme ralentissement économique et qui sont nées aux alentours de 1955 et à qui, pendant 20 ans, on a expliqué qu'ils étaient trop jeunes et que maintenant, elles ont 45 ans, on leur explique tout simplement qu'elles ont fait leur temps. Ce sont des jeunes naguère à qui on a dit « votre tour viendra ». Et ce sont des vieux ou des adultes d'aujourd'hui, des futurs vieux, à qui on explique « Désolé, vous avez fait votre temps ». Or, ils n'ont jamais fait leur temps.
Une question là.
Ce qui m'a touché quand vous avez parlé, c'est quand vous dites que... Enfin, vous nous faites peur, moi, je trouve, par rapport à l'avenir. Hein. Vous nous paniquez. Je ne vous critique pas là-dedans. Mais je trouve que la génération actuellement, la vôtre, entre autres, est très démunie au niveau de la difficulté de vivre et de la difficulté d'être mature. J'ai travaillé avec des bébés pendant très longtemps et c'est vrai que la vie leur donne la possibilité de voir, de comprendre des choses qui, entre autres ma génération, j'avais jamais compris. Et de ce fait, les parents, ils ont besoin d'une force de connaissance beaucoup plus que pour ma génération. Et que je me demande dans quel état il y a la responsabilité de l'État-providence, et que l'État-providence devrait de plus en plus travailler et réfléchir.
C'est une... Effectivement, comment... Enfin, quelle va être la suite de cette histoire-là? J'ai donné l'impression d'être extrêmement pessimiste. Il y a une phrase que j'aime bien de Michel Rocard. Je n'apprécie pas plus que ça Michel Rocard, mais il est une phrase de sa part que j'apprécie tout particulièrement. C'est « Je suis pessimiste et c'est pour ça que je suis optimiste ». Je pense que, fondamentalement que lorsque l'on a mis sur la table les problèmes à gérer, que nous allons devoir gérer au cours des 30 à 50 prochaines années, nous voyons que malgré tout, on n'est pas si gâté que ça, et qu'il y a du travail à mener, et que ce travail est en définitive extrêmement exaltant, à condition de prendre la mesure de toute la complexité, de toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et à partir du moment où on a pris conscience de cela, on comprend que nous avons effectivement plusieurs choix. Le choix de effectivement laisser à volo le système social et se dire que tant pis, certaines générations se sont trouvées en situation pire et tant mieux, d'autres rafleront la mise d'une récession qui a été organisée pendant un quart de siècle et que certes, dans les nouvelles générations, ceux qui sont le mieux en situation de saisir les nouvelles évolutions, les mieux diplômés, créant leur start-up et ainsi de suite, pourront rafler la mise d'une situation qui va redémarrer. C'est l'une des façons de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est se dire qu'en définitive, la question sociale est une question sérieuse. Elle touche en définitive tous les problèmes de l'existence. Vous avez parlé des bébés. On peut parler des adolescents, on peut parler des enfants arrivés à l'âge de raison, on peut parler de toutes les classes d'âge de la vie. Toutes sont concernées par cet avenir de long terme. Et visiblement, comme cela concerne tout le monde et comme ça concerne tous les aspects de l'existence, ce sont là des problèmes extrêmement intéressants. Une fois qu'on a pris conscience de toute la difficulté, de toute la complexité du système, on peut se dire, à partir de ce moment-là, que, effectivement, nous avons pour responsabilité de laisser à ces enfants, aux enfants de ces enfants qui naissent, mais aussi à toutes les classes d'âge qui sont plus âgées que des bébés, nous avons la nécessité, la responsabilité de leur remettre quelque chose de mieux. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de politiquement, comment est-ce qu'on répartit les bénéfices et les difficultés de la croissance économique, mais aussi tout un ensemble d'autres choses. Et comme vous l'avez dit, actuellement, on laisse l'État-providence aller à volo. La branche famille de la sécurité sociale est en situation de décrépitude absolument extraordinaire par rapport à ce que la branche famille a pu être dans les années 50 dans la société française. Et je crois que c'est à la fois un indicateur de comment est-ce que la société française aujourd'hui se projette dans l'avenir, en décidant de ne pas faire grand-chose, et c'est aussi un indicateur de... ça produit aussi des résultats extrêmement néfastes pour les jeunes familles, pour les femmes qui ont des enfants, qui ne trouvent pas de crèche, pour tout un ensemble de besoins sociaux de ces jeunes familles qui ne rencontrent aucune, qui ne sont pas solvables. Et qu'effectivement, actuellement, que se pose-t-on principalement comme question, c'est comment financer par l'assurance la dépendance pour les vieux jours. En termes de projection dans l'avenir d'une société, je pense que c'est légitime de se poser cette question-là, mais c'est inquiétant si c'est la seule question que l'on se pose en termes d'avenir de la société.
Une toute dernière question très rapide avec une réponse rapide.
Je vous en supplie, rassurez-moi, parce que moi je suis rapatrié oranais, né dans le 16e pendant la guerre d'Algérie. Bonjour, alors ma famille est éclatée, bonjour aussi. Donc je fais partie d'une génération à risque, à vie, vous avez dit vous-même. Vous voudrez que je sois prêt à préparer ma vie de vieux, heureux, moins heureux, bonjour. Moi je rêve. En fait, je vous en prie, rassurez-moi, dites-moi quelque chose d'autre qu'on va partager, mais on n'a pas grand-chose. Et puis, ou alors, dites-moi quelque chose d'autre que c'est mieux aux USA. Qu'est-ce qu'on va vivre, nous, enfin, ma génération. Merci.
En fait, effectivement, votre question est pertinente. Comme je l'ai indiqué, aux États-Unis, ce n'est pas mieux pour tout le monde. C'est mieux pour la crème et en fait les enfants des catégories sociales les plus élevées des États-Unis qui sont en mesure de se payer une université de premier rang cotée aux États-Unis. Je n'ai pas dit que les États-Unis, c'est ce qu'on fait de mieux, bien au contraire. Ce que je crois en revanche, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fois pris conscience de l'ensemble des difficultés que nous accumulons, eh bien, il faut revenir sur les 30 glorieuses. Qu'est-ce qu'ont pu être les 30 glorieuses, cette période historique de redémarrage économique extraordinaire après un demi-siècle d'horreur ? C'est le fait qu'une génération a été consciente progressivement de son devoir politique par rapport à l'avenir. Les 30 glorieuses, c'est aussi le fait qu'une génération a consenti à plus de redistribution, a consenti à construire un système d'éducation, a consenti à créer un système d'État-providence. En 1948, on a créé un système de retraite. D'accord, en 1948, l'erreur qu'on a commise, c'est de dire que les retraites pleines en 1948 iraient seulement à ceux qui avaient 35 années d'annuité de cotisation devant elles. C'est-à-dire qu'en 1948, on a créé un système de retraite à partir des générations nées en 1920 qui avaient suffisamment d'années de travail devant elles pour pouvoir avoir une retraite pleine. Mais toujours est-il que les 30 Glorieuses, ça a été une période où on a décidé politiquement de prendre des responsabilités vis-à-vis du long terme. Et en fait, cette prise de conscience, on la trouve à peu près dans tous les pays. Dans les pays nordiques, on la trouve en France, on la trouve aux États-Unis aussi, où le New Deal et sa suite dans les années 40, 50 et 60, ça a été la décision politique d'une génération de faire autre chose par rapport à ce qu'elles avaient vu d'horreur qui venait avant. La génération d'avant, celle qui a fait les 30 Glorieuses, c'est la génération qui, en suivant les lois du marché, a produit la crise de 1929, la spoliation des gens qui avaient épargné sous toutes leurs formes en Russie aussi, le crash de 1929. Quel sera le destin de la génération qui aura épargné pour sa retraite s'il y a de nouveau un crash de 1929 c'est une question qui se pose aussi. La génération d'avant, celle qui a fait les 30 Glorieuses, a fait plutôt des horreurs. La génération qui a fait les 30 Glorieuses, c'est aussi la génération qui avait vu l'entre-deux-guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et les erreurs qui ont économiques, sociales et de tous ordres qui avaient été produites à l'époque. Et en fait, les 30 Glorieuses, c'est la croissance économique, c'est aussi le résultat d'une prise de responsabilité. Si on ne veut pas prendre de responsabilité, effectivement, je pense qu'on se promet le marasme. Si on prend ses responsabilités, je pense que l'on se donne aussi des possibilités de croître autrement. Je pense que les besoins sociaux, aujourd'hui, sont énormes. Et que pour cela, effectivement, il faut retrousser ses manches et les retrousser ensemble.